Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Ça n'a échappé à personne, il fait très chaud sur toute la France en ce moment, n'est-ce pas Fred?
Ah bon?
Non, ne te plains pas, on n'est pas si mal nous en studio
par rapport à d'autres. Évidemment.
Ce qui n'empêche pas certains de continuer de faire du sport en extérieur. J'en profite, soyez évidemment toujours prudents. Ne faites pas de sport aux heures de pointe et pensez à bien vous hydrater. Des conseils qu'ont sans doute suivi nos GG pendant leur carrière où ils ont forcément été amenés à jouer sous de fortes chaleurs, que ce soit en extérieur sur les courts et les terrains comme Sarah et Pascal, ou même dans les salles non climatisées avec Fred. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans des conditions de chaleur extrême? Sarah, j'ai envie de me tourner d'instinct vers toi parce que c'est vrai que le tennis, on voit souvent des joueurs sur les courts souffrir de la chaleur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé?
Oui, en Australie,
ouais.
Où les chaleurs, le thermomètre monte très 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 haut.
Et après, t'as nagé avec les dauphins.
Pourquoi tu dis ça?
Je sais pas, on m'avait raconté que tu avais nagé avec les dauphins.
Oui, j'ai nagé avec les dauphins, mais c'était à Miami.
Ah, c'était à Miami, c'est juste à côté.
Miami. Non, c'est vrai que la tournée australienne est toujours celle qui est la plus difficile à appréhender, forcément, surtout quand on vient d'Europe et qu'on est dans l'hémisphère nord, donc on est en plein hiver. Et c'est vrai que de plus en plus maintenant, les joueurs descendent dans les Émirats pour avoir une période d'adaptation. Et puis, alors je vais vous dire ça, à mon époque, en fait, il n'y avait pas de règles, de heat rules, c'est-à-dire à un moment où quand le thermomètre est trop haut par rapport au taux d'humidité où on stoppe le match. En fait, nous, on pouvait même pas sortir du court, à part pour aller aux toilettes, mais il y avait pas ces règles-là. Après, on décalait, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer à midi, bah, tu jouais à 17h ou 18h. Mais tu cramais autant sur le court. Ça pouvait monter jusqu'à plus de 50, 60 degrés sur le court central de l'Open d'Australie. Il n'y avait pas de toit aussi à l'époque. Donc, en fait, il y a eu une amélioration des conditions parce qu'il y a eu des accidents. Il y a des joueuses et des joueurs qu'on a vu sortir en fauteuil roulant ou des malaises sur le court. Donc, en fait, les règles se sont adaptées au fur et à mesure. Et on a vu à Roland-Garros cette année,
bah oui,
avec une première semaine extrêmement chaude, mais on n'avait pas le taux d'humidité. Donc, je pense que ces règles vont aussi encore évoluer pour que ça ne soit pas juste réglé entre la chaleur et l'humidité. Et l'autre tournée qui est... mais étouffante, c'est en ce moment. C'est là, les joueurs et les joueuses ont commencé à Washington. Mais là, c'est irrespirable. Et comme on est un sport d'extérieur, on va dire 9 mois de l'année, ces règles ont évolué. Mais moi, il m'est arrivé de terminer des matchs où je finis dans, je mets des glaçons dans la baignoire, de l'eau et je reste dedans pour essayer de faire descendre la température corporelle.
Sur le court, qu'est-ce que tu faisais pour essayer de t'adapter à ça? Est-ce que tu anticipais déjà parce que tu savais ce qui allait se passer?
Oui, tu manges des poches de glace que tu mets, moi je le mettais entre les cuisses.
Ouais.
Tu pouvais le mettre. Maintenant, on voit aussi des boudins de serviettes avec des poches de glace qu'on met au-dessus, sur la nuque pour essayer de faire descendre la température.
Mais ça suffit vraiment à changer quelque chose?
Non, ça suffit pas.
Vous êtes très peu de temps assis sur la chaise quand même.
Et puis je pense qu'on n'est pas tous égaux devant la chaleur. Pour preuve, Yannick Sinner semble être un joueur qui est très sensible. Je devenais rouge écarlate, mais j'arrivais à tenir jusqu'au bout du match. Mais j'étais violette à la fin. Et puis les ampoules, c'est-à-dire que tu transpires tellement que tes pieds, c'est je pense qu'on a les pieds des ballerines, quoi. T'es rempli d'ampoules. Donc t'as plein d'inconvénients
qui arrivent. Pascal.
Quelque chose qui marque ça, mes souvenirs de joueur, c'est la chaleur. J'avais du mal à la supporter. Et surtout, ce que j'ai constaté ensuite, ce qui a été éprouvé lorsque j'étais entraîneur, c'est que bien généralement, les joueurs les mieux prédisposés athlétiquement supportent davantage la chaleur que les petits moteurs. J'étais un petit moteur et la chaleur c'était un facteur néfaste supplémentaire pour moi.
Ça baissait tes performances directes, tu t'en rendais compte?
Mais en fait, c'était mieux, ça agissait sur mon niveau technique également, parce que j'avais les pieds, comme l'a dit Sarah, les pieds qui me brûlaient tout le temps, la plante de pied qui me brûlait. Ce qui fait qu'au niveau technique, on a besoin, nous, footballeurs, d'avoir une extrême sensibilité entre le contact du ballon.
Bien sûr.
Il faut que la sensibilité soit réelle, soit affinée. Et ça altérait ma sensibilité, mais grandement. Donc, j'avais pas de moyens, en fait, parce que athlétiquement, la chaleur me faisait davantage souffrir. courir et je peinais davantage. J'étais plus à vouloir respirer plutôt qu'à à me concentrer sur l'aspect technique ou tactique du foot. Une punition pour moi, la chaleur. Et ça m'a aidé à tenter d'améliorer, d'affiner. Je suis pas le seul à le faire, hein, lorsque j'étais entraîneur, pour essayer de faire en sorte que les joueurs soient moins impactés au travers des longues séances d'entraînement. Donc je me souviens, à certaines époques, on avait réfléchi à multiplier les séances d'entraînement la journée, à les faire en conserver l'intensité, mais à les réduire au niveau du temps et à les multiplier dans 3-4 séances dans la journée.
D'accord,
pour faire en sorte que les joueurs soient comment dire, malgré tout préparés conséquemment et surtout malgré tout lutter contre cette chaleur et continuer à se préparer pour être le plus performant possible ensuite sur le terrain.
C'était pire pour toi quand t'étais joueur, donc sur le terrain en activité à courir, etc., ou quand t'es sur le bord du terrain comme coach,
où tu bouges pas et t'es en plein soleil en permanence?
Non, mais ça j'arrive à supporter. Mais d'abord, ne pas bouger sur le banc, c'était pas possible pour moi. Donc...
c'est vrai aussi.
Mais c'est joueur, par exemple, j'ai à une période en Division 1, j'ai signé au Sporting Club de Toulon, qui jouait donc en Division 1, sous les ordres du regretté, d'ailleurs je le salue, notre ami Roland, Courbis. Et j'ai mis un temps fou à m'adapter, tellement il faisait chaud pendant les périodes estivales, pendant les séances d'entraînement, cette chaleur étouffante. C'était incroyable, quoi. La déperdition au niveau athlétique, pour moi, c'était incroyable.
Et de la lucidité aussi, j'ai envie de dire, parce que c'est ça aussi le risque.
Quand t'as le cerveau qui bouillonne, tu fais pas les bons choix.
De lucidité, absolument. Bien entendu, et encore. Et pour nous, ça doit être valable aussi pour les tennisman et women, aussi la sensibilité. Nous, l'aspect technique est prépondérant, bien entendu. Mais quand t'as les pieds qui te brûlent, t'as qu'une envie, c'est enlever tes pompes, en fait. Or, tu peux pas jouer pieds nus. Donc t'as une déperdition aussi au niveau technique due à ces fortes chaleurs.
Fred, toi, j'ai envie de t'entendre aussi parce que tu ne faisais pas un sport d'extérieur, mais la chaleur intérieure, j'ai envie de dire, parfois, on parlait d'humidité avec Sarah aussi, dans les salles de basket, ça peut être presque pire parfois, une sensation d'étouffement.
Oui, parfois c'était compliqué, je me rappelle surtout quand on allait jouer à l'Asvel, où c'était vraiment pour nous la salle la plus chaude, on jouait.
Il y avait de la clim.
Alors dans certaines salles, oui, à l'Asvel,
il n'y en avait pas.
Je ne sais pas s'il y en avait, en tous les cas, ils ne la mettaient pas. Et il faisait 50 degrés dedans, c'était vraiment une chaleur insoutenable, et notre kiné nous mettait effectivement
des poches de glace.
Mais moi je me rappelle de moments où on a joué, et nous les plus gros, nous les postes 5, on transpire beaucoup, et parfois ça crée des choses assez drôles. Je pense que la plupart des gens connaissent Luc Longley, qui était un joueur qui a gagné un titre NBA avec Michael Jordan, et on a joué contre l'Australie vers Biarritz, Angleterre, etc. Donc il faisait 50 degrés dans la salle, évidemment, et il tombe avec Antoine Rigaudot, et quand il tombe, lui, c'était une mare d'eau, etc. Et donc il commence à vouloir s'embrouiller, et moi je me dis, je suis un grand costaud aussi, je vais m'emmêler. Je commence à courir et il avait tellement mouillé le sol que je me suis cassé la figure.
T'as glissé dessus.
J'ai complètement raté la bagarre. Et en fait, c'est ça qu'il fallait gérer le plus. C'était le fait qu'on transpire et qu'on mouille le sol. Et donc, dès qu'on tombait, on devait vraiment bien essuyer parce que c'est un vrai risque. Nous, dans le basket, réellement, la chaleur nous gêne, mais c'est le froid qui nous gêne le plus.
Ah
moi, j'ai connu des salles. J'ai joué dans une salle où il montait un parquet sur une patinoire.
Oh wow.
C'est-à-dire
le froid te gênait.
Alors le froid me gênait et quand on était sur le banc, on priait pour pas rentrer en fait. J'ai fait un match où j'étais sur le banc, j'avais une grosse doudoune, des gants, un bonnet. Et quand le coach nous regardait, mais vraiment, c'est incroyable. Et là, on se disait, s'il te plaît, ne fais pas rentrer. Et t'as l'impression que tes os se brisent.
Ouais, t'as raison, Pascal. Bah oui.
Sous froid, le football, quand t'es remplaçant, que t'as les pieds complètement congelés et que tu dois rentrer, là, t'as l'impression que t'as deux.
Pascal, j'ai pas choisi le football pour ça.
Je vais vous raconter une anecdote. Je tairai le nom du club parce que je veux pas leur faire offense, mais. Alors pour prouver que les époques ont changé, à mon époque, dans les années 80, joueurs professionnels, en plein été, on dispute avec le Sporting Club de Toulon un match chez une équipe donc, qui nous reçoit. On rentre dans le vestiaire, il faisait 50, il faisait 1000 chauffages.
Oh. Donc, mais volontairement?
Oui.
D'accord.
Ils avaient volontairement mis le chauffage, certainement pour nous mettre dans l'ambiance, mais bon, c'était impressionnant.
Au moins, tu as une différence de température qui est moindre quand tu sors sur le terrain. Ouais, c'est un petit peu plus facile à adapter.
C'est pour se préparer, en fait.
Je peux dire que c'est insupportable quand même.
Ah, ben oui, tu respires plus. Et c'est intéressant ce que dit Fred aussi. Sarah, tu étais plus sensible au froid ou au chaud quand tu jouais? Parce qu'on voit des fois, alors là, on parle de la chaleur à Roland-Garros, des fois, il y a du très mauvais temps aussi à Paris pendant la quinzaine du Grand Chelem parisien. On voit des joueurs jouer avec soit des manches longues ou avec,
oui,
même avec des gilets.
Avec les doubles peaux en dessous.
Exactement.
Ben, en fait, c'est plus facile de te couvrir quand t'as un peu froid, en fait. Parce que tu peux
mettre... au niveau de la transpiration.
Tu peux enlever les couches. Tu fais l'oignon au début et puis après, tu commences à enlever les couches. Je dirais que c'est plus difficile sur la chaleur parce que t'as pas les moyens de faire redescendre la température corporelle à part dire je vais aux toilettes et t'en profites pour te rafraîchir un petit peu. Mais il y a aussi ça dans la chaleur, c'est la transpiration dont tu parlais. Encore une fois, on n'est pas tous égaux, mais quand tu transpires des mains et que ta raquette, tu peux pas la tenir. C'est un calvaire.
Alors que t'as un grip, quand même.
Oui, t'as un grip, mais il faut que tu le changes. Mais des fois, tu feras le babal, la raquette tourne dans la main. Et c'est gênant parce que, effectivement, il y en a qui transpirent plus que d'autres. Les hommes, c'est pas compliqué. Sur leur chaise, ils changent de t-shirt et voilà.
C'est vrai que c'est pour les filles.
Mais les filles, je me souviens d'une anecdote, c'est que Alizé Cornet avait voulu changer. Alors je sais plus dans quel tournoi, mais je vois cette image où elle va contre la bâche, vraiment dans un petit coin d'ombre. Elle a une brassière parce que on joue en brassière, donc c'est des trucs qui couvrent quand même fortement la poitrine et le dos. Et on la voit enlever son t-shirt et en remettre un vite fait parce qu'elle transpirait. Elle a pris quand même une amende, quoi.
Apparemment, c'est à l'US Open où parfois il peut faire aussi très chaud.
Fait très chaud.
Vous n'êtes pas autorisé, vous les femmes, par exemple, à prendre 20 secondes rentrer dans les vestiaires pour changer de tenue.
Maintenant, tu peux, en fait. À la fin de chaque set, déjà, tu peux sortir. Et puis, il y a cette heat rules qui peut faire que tu as un peu plus de temps entre le deuxième et le troisième set si tu vas en trois sets. Mais à l'époque, ça n'existait pas du tout.
Tu avais une tenue pour la chaleur. Tu disais, je peux prendre cette tenue parce que grâce à ça, je sais que...
Déjà, tu ne prends pas de la couleur, tu prends du blanc.
Okay.
Et tu joues pas en
du noir.
Tu savais, c'était prévu, c'était ma tenue de chaleur.
Encore une fois, les matières ont évolué avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, tu jouais avec des t-shirts en coton, ce qui ne se fait plus du tout aujourd'hui. Maintenant, pareil, on jouait avec des petits polos avec les manches, les cols, et on voit que les tenues des filles ont beaucoup évolué. T'as le dos qui est ouvert, tu as le bas du dos, t'as même le ventre qui peut être ouvert. Donc en fait, après, il y a aussi une question de confort qui fait que aujourd'hui j'ai envie de dire que les filles, elles ont des tenues qui peuvent être adaptées en fonction de la chaleur ou de faire en sorte de te faire la tenue qui te convient. Et puis la matière, matière qui a évolué.
Donc tous,
exactement.
Soleil,
mais ça n'empêche que j'ai envie de dire le plus compliqué, c'est la transpiration pour la raquette et pour les pieds.
Et pour le ballon aussi, Fred, j'imagine, parce que tu parlais de transpiration tout à l'heure, mais pour tenir le ballon.
Vous mettez de la colle comme les handballeurs ou pas?
Non, on fait pas ça, mais par contre, on met des sortes de poignées.
On met des poignées en éponge.
Et j'avoue qu'une année, je m'étais pris au délire où j'avais mis un poignet à chaque main et un bandeau. J'avais pas de cheveux, évidemment, mais ça me faisait rire. Et c'est vrai que c'était pratique parce que ça m'évitait justement d'avoir l'eau qui tombe sur les yeux aussi.
Ça a donc une utilité, ce n'est pas juste stylistique.
Non, c'est stylistique. Enfin, moi, c'est pour le style au départ, et après, finalement, j'ai adopter ça parce qu'effectivement c'est pratique parce que effectivement c'est la chaleur la transpire, mais quand t'as pas de cheveux qui retiennent la transpire, je peux dire que ça coule vachement sur les yeux.
C'est ce que fait Tiafoué qui a toujours le... Alors ça fait un peu vintage le fameux bandeau en éponge, mais c'est pratique.
On parle beaucoup de ce qui se passe pendant les matchs en compétition, etc. Mais Pascal, t'as commencé aussi à l'évoquer, les entraînements évidemment au quotidien, parce que vous aussi en foot, en tennis, vous entraînez à l'extérieur et ça aussi c'est des conditions qu'il faut arriver à gérer. Tu le disais, il y a des façons d'adapter finalement aussi les entraînements.
Oui, les horaires bien entendu, comme tout sportif sous la chaleur, donc on essaye de faire des séances plus tôt le matin et plus tardives le soir.
Parce qu'il n'y a pas d'ombre sur les terrains de foot.
Ah non, bah non. Il n'y a pas
de. Faut pas mettre un arbre au milieu.
Pas trop, non, mais en fait, c'est surtout. En fait, c'est juguler ce que la chaleur te fait perdre. Et, il faut que tu te prépares conséquemment. Donc, c'était réfléchir à des séances plus courtes, des séances matinales, des séances multipliées dans la journée, et plus courtes, mais en conservant l'intensité qui est celle qui est nécessaire à la pratique du foot de haut niveau. Donc ça, c'est important. Je me souviens quand j'étais joueur aussi, un paramètre que j'avais du mal à juguler. J'avais besoin de faire, j'avais un poids de forme où je me sentais bien, je me sentais puissant, fort, vite. Et souvent l'été, eh ben tu perds du poids parce que tu sues beaucoup et t'as pas très envie de manger malgré tout. Donc je perdais du poids et je perdais aussi de la puissance. Donc j'étais mal à l'aise dans ces périodes-là parce que la chaleur me gênait trop. En fait.
Ouais, d'où l'importance aussi de
la dissimuler. C'est curieux parce que moi je prenais du poids l'été. Hein.
Ah ouais, pas pour les mêmes raisons.
Je comprends pas.
Ah ouais. T'étais plus souvent dehors, non, auprès du barbecue.
Mais alors, honnêtement, mais les gens me sont toujours surpris. Je ne mange pas énormément, mais on a tous des tendances. Là aussi, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux par rapport à la chaleur, on n'est pas égaux par rapport à la transpiration, on n'est pas égaux par rapport à la prise de poids. Et c'est vrai que moi, j'étais obligé de faire extrêmement attention pour éviter de prendre trop de poids, ce qui était extrêmement difficile quand il faisait chaud. Parce que quand il fait chaud et que tu as plus de poids, et ben, je peux te dire que tu transpires plus, mais tu galères plus surtout. Tu as un poids de plus à
bouger. Bien sûr.
Donc, j'avoue que parfois, c'était un peu compliqué.
Oui, et nous, on doit. Enfin, je veux dire. En plus de ça, au tennis, tu sais quand est-ce que tu commences ton match, mais tu sais pas quand tu le termines. Sûr. Donc c'est aussi ça l'inconnu.
Ça c'est la contrainte. C'est une contrainte
qui est exactement qui est à appréhender tout le temps. Et tu ne peux pas dire, je vais m'entraîner aux heures où il fait le moins chaud, parce que quand tu te retrouves programmé à 12h30 et que tu peux pas faire autrement, eh bien il faut que tu sois préparé. Il faut que tu te sois entraîné dans des conditions extrêmes pour que tu puisses pouvoir fonctionner, c'est-à-dire jouer, avoir un peu de lucidité. Et encore une fois, c'est-à-dire que parfois tu peux dire par exemple t'es programmé en troisième match, donc t'as à peu près calculé que tu vas être à 15h et en fait tu rentres sur le court, il est 19h et là, et là t'as une humidité parce que t'es aux États-Unis, une humidité, donc en fait t'as plus chaud mais tu transpires, c'est que t'as à peine joué deux jeux que t'es déjà mais en eau. Donc
c'est plus, ça qu'il faut que tu nous expliques aussi, Sarah, parce qu'on parle souvent en sport du problème de l'humidité, à quel point ça peut gêner les joueurs. Alors tu parles de la transpiration, est-ce que ça joue aussi au niveau de la respiration?
Mais oui, tu perds énormément d'eau, donc la même chose, c'est ce que tu vas boire, et bien tu dois t'hydrater différemment. Donc oui, l'humidité est aussi compliquée à gérer que la chaleur, parce que tu perds beaucoup de sels minéraux, donc
il faut compenser
en
sportif de haut niveau, c'est entre 1 litre et 2 litres d'eau par heure.
Oh wow. N'importe quel
compétition,
sport.
Oui, 1 à 2 litres d'eau par heure de perte sous force.
Qui est globalement ce que chacun doit consommer par jour à peu près. On dit entre 1 litre et demi et 2 litres par jour par personne.
Là, tu penses quelqu'un de sédentaire, exactement. Sans compter l'apport en sodium, parce que bien sûr, pour éviter l'hydratation, la déshydratation, il faut aussi ajouter du sel.
T'as raison d'en parler, parce que c'est vrai que l'été, comme il fait chaud, tu transpires plus, tu as tendance à boire pareil. Ouais. Et donc c'est compliqué, donc il faudrait que tu boives plus.
Et tu
chopes des crampes.
Ben oui,
on l'a constaté
pendant la Coupe du Monde aux États-Unis. J'étais surpris par le nombre de joueurs qui avaient des crampes dans les matchs.
Ah ouais, mais cette chaleur-là, en fait, on n'est pas habitué. On est habitué à boire une quantité d'eau et parfois t'es obligé de te forcer un petit peu. Et on nous explique tout le temps qu'il faut se forcer. Sauf que parfois, t'as pas envie de te forcer. Moi, juste pour la blague, j'ai failli me noyer dans mon bain, moi.
Parce qu'après dans la baignoire,
et donc j'étais en préparation, il faisait 50 degrés évidemment, en plus moi j'ai joué à Malaga, donc je peux vous assurer que l'été il fait plutôt chaud, et je rentre chez moi, je me dis je suis cramé, c'était dur, je vais prendre un bain. J'ai eu tellement de crampes dans tout le corps parce que j'étais pas assez hydraté. J'ai failli me noyer, en fait. On est venu me sauver. On m'a sorti du bain. J'ai failli me noyer dans mon bain.
Combien ils étaient pour te sortir?
Ils étaient 12. Parce que j'ai toujours 12 personnes à la maison. Et donc, c'est comme ça que c'est passé.
Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi des conséquences auxquelles on ne pense pas forcément, Fred. Absolument. Mais effectivement.
Non, mais les crampes, vraiment pas une blague.
T'en as eu toi aussi, Sarah, sur le terrain, sur les cours?
Effectivement, quand je suis sortie, je jouais à Hobart en Tasmanie. Et je me souviens d'un match qui a duré pendant des heures et des heures. Et je suis rentrée dans les vestiaires. J'étais allongée et j'ai des crampes générales. Partout.
Et ça passe pas?
Non, et puis tant que quelqu'un vienne t'aider, ça met un peu
t'as le temps de souffrir.
C'est-à-dire que quand t'as une crampe au mollet.
Je vais te poser une question, toi, la spécialiste du tennis. Souvent, je me pose ces questions. Quand je joue au tennis, quelquefois, longtemps, j'ai des crampes aux mains. Ça vous arrive jamais d'avoir des crampes sur
vos bras? Non, pas les crampes aux mains. C'est parce qu'en fait, je pense que tu serres trop.
Tu crispes.
Parce qu'en en fait, ouais, entre les points, il faut pas serrer la raquette. Peut-être que toi, peut-être que t'es accroché aux manches de ta raquette entre les points.
Et après, quand tu rentres, tu gères pas la raquette non plus. C'est juste sur le terrain que tu
lâches la raquette. Tu lâches la raquette.
Oui, à un moment, tu la poses, tu vois. C'est le principe. Il y en a qui, effectivement, s'agrippent aux manches de la raquette. Donc, tout se contracte, alors que c'est au moment du contact de la balle qu'on serre.
C'est la tension
et la crise passion, effectivement. Merci beaucoup, les GG, pour ce vestiaire. On va pouvoir refermer les portes tranquillement.